vient de chanter à toi seul, comme si tout le reste, tout ce qu'on a, c'est pour lui. Mais en fait, c'est vaste quand il s'agit de Dieu. Si c'était pour déjà, quand je me suis marié, j'ai promis de tout faire pour ma femme. Ça, c'est juste une personne. Mais quand on s'engage pour Dieu, c'est vaste. C'est illimité comme potentiel, comme possibilité. Et voilà. Et alors ça, c'est être affranchi, c'est être libéré, c'est tout un grand monde. Les gens du monde, ils croient que quand on devient chrétien, ben on réduit notre vie à une église et puis une salle et des prières et tout ça. Non, non, non. C'est quand on vient à Christ, après on se libère et on a un monde vaste. Nos pensées vont bien au-delà du aujourd'hui, vient au-delà du matériel. On a une vie en trois dimensions, même à la quatrième dimension, la spirituelle. Et c'est extraordinaire, c'est difficile à le croire et à l'imaginer tant qu'on n'est pas dedans. Mais une fois qu'on se donne pleinement au Seigneur, alors là, les potentiels sont extraordinaires. Il va au-delà de l'imagination même, alors ça va loin. Hein, je vous propose une lecture dans Actes chapitre 7. Et pendant que vous cherchez, eh bien, le titre de mon étude ce matin, c'est « L'homme qui avait tout et rien pour être prophète ». Alors, je vous laisse réfléchir un peu. « L'homme qui avait tout et rien pour être prophète ». C'est-à-dire, normalement, il n'est pas qualifiable, mais il n'est pas qualifié pour l'être, et pourtant, il l'a été. Et c'est une pensée d'encouragement pour nous. Même si parfois on se regarde et on se dit « mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu ?» Eh bien, ce n'est pas une question de ce que moi je pense que je peux faire pour Dieu, c'est ce que Dieu dit que je peux faire au travers de toi. Hein? Et une simple cuillère peut se dire « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Oui, mais si elle se trouve entre les mains d'un bon cuisinier, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut apporter du plaisir à beaucoup de monde. Donc, c'est pas ce que je peux faire, c'est qui me possède. Hein. Alors, vous êtes en Actes chapitre 7. Alors, c'est le discours d'Étienne, juste avant qu'il ne soit lapidé. Et nous allons lire la partie qui concerne justement cet homme auquel nous allons penser ce matin, Moïse. Donc, au verset 20. On va commencer à lire au verset 20. Je vais lire jusqu'au verset 37. Actes, chapitre 7. Il dit, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 ans dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit. Excusez-moi, j'ai dit 3 ans, hein, c'était 3 mois. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qui outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous battez-vous l'un l'autre ? Vous maltraitez-vous l'un l'autre ? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et, comme il s'approchait pour l'examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va, et je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse, qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya vers comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos pères, vos frères, un prophète, comme moi. » Donc là, on part d'un petit bébé qui est recueilli, hein, qui est adopté par une femme païenne, la fille du Pharaon. Et puis, mais c'est lui qui aussi sera celui qui annoncera la venue de Christ. Hein, donc ce dernier passage, c'est, il annonce, il viendra un autre comme moi, mais c'est lui qui vous libérera vraiment. Hein, on vient de méditer sur ce mot, être affranchi. Ben là, c'est pas seulement libérer, Moïse a pu les libérer de l'esclave d'Égypte, mais Christ viendra pour nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Donc, vous savez, inconsciemment, chacun d'entre nous, nous avons des idées qui proviennent, je ne sais pas d'où, hein, mais de ce qui peut être un prophète de Dieu. Si je vous demandais d'établir une liste des qualités d'un prophète de Dieu, il se peut qu'elle soit assez longue, et puis plus elle s'allonge, plus elle élimine du monde, et puis finalement, il y a très peu de gens qui pourraient être prophètes, et peut-être personne. Mais la question c'est sur quelle base est-ce que nous avons établi ces critères? Est-ce que ce profil du serviteur de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui nous l'a inspiré ou c'est nous? Hein, nous avons cette idée d'un saint, et un saint c'est quelqu'un qui est là au-dessus et nous autres on est ici en bas. Mais ce qui est extraordinaire et ce qui nous rassure, c'est qu'en lisant la Bible, ben, nous trouvons que ce sont des hommes ordinaires que Dieu a utilisés. Des hommes comme nous. Hein, et même Jacques le dira à la fin, il dit Élie le prophète, c'était un homme avec les mêmes passions que nous. Hein, il avait les mêmes problèmes que nous, il avait les mêmes difficultés, les mêmes tentations que nous. Alors, nous allons prendre cet homme, Moïse. Premièrement, nous allons un peu voir les éléments de sa vie qui pourraient le disqualifier. Je vais faire la liste de toutes les raisons pourquoi il ne peut pas être prophète. Et puis, je n'aurai pas à vous convaincre qu'il est devenu prophète parce que vous le savez déjà. Mais voyons, en premier stade, tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Et puis, après ce que vous allez faire dans votre être personnel, c'est vous allez voir aussi toutes les choses qui vous empêcheraient d'être vraiment acceptable à Dieu. Mais à la fin, on arrivera à cette conclusion que Dieu peut se servir de chacun de nous. Hein? Alors, les aspects négatifs de la vie de Moïse, premièrement, son éducation. Son éducation. Vous savez, Moïse est né à une époque où tous les enfants mâles de son âge, devait être jeté dans le Nil, il devait mourir. Parce que les enfants d'Israël multipliaient et le Pharaon il se sentait menacé par ce peuple qui multipliait. Et alors il a dit, bon, tous les mâles, il faut les mettre à mort. Et Jochébed, la maman de Moïse, eh bien, elle l'a vu. Et bon, on ne peut pas imaginer une maman qui pourrait se soumettre à une telle loi. Et elle a essayé de le garder. Elle l'a gardé pendant 3 mois, mais elle a vu qu'elle ne pouvait plus le dissimuler, elle ne pouvait plus le cacher. Quelqu'un le saurait. Alors, elle a pris un panier d'osier qu'elle a imperméabilisé, Et puis elle a placé sur l'eau du Nil, parmi les roseaux, et puis elle a laissé là pendant la journée. Puis certainement le ballottement, tout ça, mais bon, ça, certainement que ça ne suffisait pas, parce que quand la fille de Pharaon l'a trouvée, il pleurait. Il était mignon, mais il pleurait. Et donc quand la fille de Pharaon le trouve, eh bien, bon, elle fait ce que n'importe quelle fille fait quand elle voit un beau bébé, elle fond. Et elle le prend. Et puis, juste à ce moment-là, Myriam, qui est la sœur de Moïse, arrive. Et puis elle dit, mais tu voudrais que je te trouve une nourrice pour ce bébé? Bien sûr, elle pensait à quelqu'un. Elle pensait à la maman du bébé, sa mère. Et la fille Pharaon dit, oui, bien sûr. Et donc, Moïse a été élevé par sa maman pendant jusqu'au sevrage, et après quoi il a dû être emmené au palais, où il a reçu une éducation, mais une éducation royale, hein, une éducation de prince. Et c'était pas l'époque où l'Égypte n'était rien, hein, c'était la belle époque de l'Égypte. C'était les plus grandes connaissances, c'était les meilleures études de l'époque dans ce monde-là, en Moyen-Orient. Et il a reçu il nous dit, on l'a lu dans Actes chapitre 7, verset 22, il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il est devenu un homme puissant en parole et en œuvre. Donc c'est pas seulement qu'il a été exposé, mais il a maîtrisé toute cette connaissance. À tous les niveaux, donc c'était le physique, l'intellectuel, le militaire, tout. Il a été formé à tous les domaines d'un prince digne de Pharaon. Mais vous savez, cette éducation, elle l'a pas enseigné à craindre Dieu. Hein. C'était pas une éducation, hein, c'est comme à l'école publique aujourd'hui. Hein, vous ne devenez pas croyant hein, si vous faites seulement l'éducation en public. Plutôt, on cherche à détruire votre foi plutôt que de la construire. Et pour lui, hein, il se trouvait chez Pharaon, ils avaient le roi, le dieu Ra, et puis ils avaient Pharaon qui était dieu, et ils avaient toutes sortes d'autres divinités. Et c'est ça qu'il a reçu comme éducation. Il n'a pas reçu l'éducation d'une famille juive qui est dans la crainte de Dieu, et qui notre Dieu, et qui tout cela. Et ce n'était pas une préparation pour être prophète. Ce n'était pas une formation biblique. Ce n'était pas une formation d'une famille croyante. C'était toute une autre éducation. Et c'est là, c'est dans cette éducation-là qu'il passe les premières 40 ans de sa vie. Hein, le premier tiers de sa vie. Et la première partie de sa vie, les premiers 40 ans, c'est ceux qui marquent le caractère, qui marquent la personne. Et en général, on change peu après. Donc, dans un sens, peut-être que l'ennemi a vu que Moïse était un peu prometteur, parce que les parents avaient vu, hein, déjà dans Hébreux chapitre 11, il nous dit que les parents ont vu Moïse, et puis il y a quelque chose qui leur a dit, Moïse, c'est spécial. Et c'est pour ça qu'ils ont pris le risque de le protéger. L'ennemi a fait tout pour lui, déprogrammer de tout, pour qu'il ne puisse pas être utile à Dieu. Donc, il avait. Premièrement, il avait une éducation qui ne convenait pas à un prophète, à un serviteur de Dieu. La seule éducation religieuse qu'il a peut-être reçue, c'est pendant les premières années, là, donc jusqu'au sevrage. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que il nous dit, hein, et on l'a lu, et on le voit encore dans Hébreux chapitre 11, c'est qu'à l'âge de 40 ans, tout d'un coup, il décide, il dit, moi, je ne suis pas égyptien. Ces esclaves-là, ce sont mes frères. Pourquoi? Pourquoi et sur quelle base? Tout ce qu'on peut croire, c'est ce qu'il a quelque chose qui l'a marqué, qui a été inculqué quand il était tout petit. Et je profite de ça pour dire, entre parenthèses, vous savez, les enfants tout petits, on peut déjà leur parler de Dieu. Et c'est très important. Et on les marque avec cette pensée, et ça reste et ça revient. Et combien de personnes, peut-être pendant leur jeunesse, ils ont entendu parler de Dieu, de la Bible et tout ça, puis après ils ont abandonné. Mais quand ils arrivent à la cinquantaine, la soixantaine, tout d'un coup, ils commencent à y penser. Dernièrement, j'ai eu l'accordeur de piano qui est passé et j'ai dit, on a parlé avec lui, il a dit, mais vous savez, avant, ça ne m'intéressait pas, mais je commence à me poser des questions. Il dit, je ne suis pas insensible. Oui, mais il y a quelque chose, c'est pour ça que c'est tellement important. Dans la première jeunesse de la vie d'enfant, c'est déjà de commencer à développer une sensibilité pour les choses spirituelles. Et c'est peut-être la seule chose qui a, humainement parlant, la seule chose qui a sauvé Moïse. Moïse n'a pas reçu une éducation qui convenait à un prophète de Dieu. Il n'a pas grandi comme Samuel dans le temple depuis sa jeunesse. Lui, il a grandi dans le palais de Pharaon. C'était tout sauf ce qu'il fallait. Regardons un peu des défauts. On ne va pas regarder au nôtre. Chacun en a notre collection. Mais regardons déjà à Moïse. Vous savez, il nous dit dans Hébreux chapitre 11 qu'à l'âge de 40 ans, tout d'un coup, Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et il a préféré s'identifier au peuple de Dieu. Mais il a dit « c'est mon peuple ». Mais il n'a pas dit « je suis prêt à devenir esclave comme eux ». Pour être identifié à eux. Moi, je vais être juif, mais un chef. Je vais les délivrer. Lui, il avait cette pensée. Oui, je me joins au peuple de Dieu, mais pas dans la honte, mais dans la gloire. Et c'est pour ça qu'il s'est présenté comme l'homme fort. Il a trouvé un Égyptien qui battait un juif. Et il a essayé de les séparer, puis après l'Égyptien, là, il l'a tué, et il l'a enterré. Et puis le lendemain, il trouve deux juifs qui se battent, il dit, mes frères, mais ne vous battez pas, vous êtes frères. L'autre, il dit, mais tu te prends pour qui? Mais il l'avait vu dans l'attitude, qu'il venait pour être un chef, et il dit, oui, c'est mon peuple, mais moi, je suis un chef, je ne suis pas un minable comme eux. Et vous savez, il nous dit, on l'a lu au verset 25 de Actes chapitre 7, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui a pris. Oui, il croyait en Dieu et il dit, Dieu, moi je vais faire quelque chose pour toi, je vais délivrer ton peuple. Et il a voulu, par sa formation, il était formé avec le combat du corps à corps, le combat militaire, il avait tout. Et il savait diriger, il savait donner des ordres, il savait parler avec autorité, et il va être chef. Et Dieu ne lui a jamais demandé, Dieu ne lui a jamais dit, mais Dieu, je vais faire quelque chose pour toi. Ben, il dit, ben vas-y, essaye. Et eux, ils n'étaient pas prêts, ils n'ont pas compris, et... Vous savez, quand on commence à vouloir, des fois on a des bonnes idées, on veut faire des choses pour Dieu. Mais d'abord, lui, il ne nous a pas demandé, il ne nous a rien demandé. Et puis deuxièmement, on le fait dans la manière dont lui ne nous a jamais instruit. Et alors, on se retrouve tout seul. Et tout d'un coup, Moïse, et là, il voulait être celui qui allait délivrer le peuple, son peuple. Il était prêt à les reconnaître comme son peuple. Mais il s'est retrouvé seul, Dieu n'était pas avec lui. Même s'il voulait faire quelque chose pour Dieu, mais il ne l'a pas fait avec Dieu. Et donc il s'est retrouvé seul, et très vite, la chose n'a pas marché. Dans son zèle, il a tenté de rétablir la justice pour son peuple, mais en se servant de sa force. Mais sans être dirigé par Dieu. Vous savez, des fois, il y a des situations où on veut faire quelque chose pour Dieu, mais par notre propre force. Et Dieu n'accepte rien que nous faisons dans nos propres forces. Hein? C'est toujours par sa force. Et il a eu recours à des moyens qui ne sont pas suggérés par Dieu. La force. Vous savez, quand on sent qu'on est en train de... on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, alors on commence à utiliser la force. Vous avez vu un père qui arrive et qui essaye de suggérer quelque chose à l'enfant, il n'entend pas, finalement il élève la voix. Puis il élève la voix, et comme c'est un adulte, et puis après, avec un peu de colère dedans, et on essaie d'employer la force, et puis après, l'autre, comme il est petit aussi, on peut l'attraper, et on l'emmène, parce qu'il n'y a pas d'autorité. Donc on se sert de la force, on a recours à... C'est le dernier recours. Et Moïse a pris recours à cela, et le résultat, c'est que le résultat qui arrive souvent, en tant que parents, quand on se sert de la force, et bien finalement, ça arrive, on frôle l'abus, si on n'y arrive pas. Et puis Moïse, il a frôlé l'abus, il est arrivé au meurtre. Pourquoi ? Le problème, ce n'est pas que le projet était mauvais, mais c'était qu'il le faisait sans Dieu. Il essayait de le faire par ses propres forces. Oh, c'est par la foi ! Mais je vais me servir de mes propres forces pour servir Dieu. Ça ne marche pas. Dieu n'approuve pas. Dieu n'est pas là. On se retrouve seul. On se casse les dents. La méthode de Moïse était vouée à l'échec parce qu'il cherche à accomplir l'œuvre de Dieu par les moyens humains. Et le résultat, c'est qu'il est très vite désabusé parce qu'il se rend compte qu'il n'y a personne qui le suit. Personne, il arrive à rallier personne. Et puis... il doit abandonner son projet. Très vite, il se dit, maintenant que j'ai fait ça, je ne peux pas retourner au palais. Ce peuple ne veut pas de moi. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je quitte l'Égypte. Et celui qui voulait délivrer ce peuple, maintenant, il part dans un pays où ils ne sont pas. Celui qui a voulu, il a dit, moi... Je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon, je veux être appelé juif. Mais là, il est obligé de partir là où ils ne sont pas. Pourquoi ? Parce qu'il a essayé de faire les choses par sa propre force. Vous savez, il n'est pas le premier et il n'est pas le dernier. Combien de fois nous avons essayé de faire quelque chose pour Dieu, mais avec notre intelligence, avec nos moyens, en ayant recours à des méthodes moins que spirituelles. Et bien sûr, comme il employait des méthodes qui n'étaient pas suggérées par Dieu, eh bien très vite, il se trouvait dans une situation de meurtre. Et il a essayé de couvrir sa faute avec de la poussière, mais le lendemain déjà, il s'est rendu compte que c'était sorti, tout le monde le savait. Voué à l'échec. Il n'a pas encore appris à consulter Dieu. Il n'a pas encore appris, et je vais le dire ça souvent, mais il n'a pas encore appris, avant de prendre une initiative, même si c'est une bonne idée, de dire « Dieu, sans toi je ne pourrais rien faire ». Et ça c'est vrai pour chacun d'entre nous. On ne peut même pas vivre la vie chrétienne sans l'aide de Dieu. Encore moins le servir ou servir quelqu'un pour lui. Et vous savez... Ce n'est que 40 ans plus tard, donc la deuxième série de 40 ans, il aura 80 ans quand il va enfin comprendre qu'il faut consulter Dieu. Vous savez, je me pose la question, parce que ce sera 40 ans plus tard, donc quand Moïse a 80 ans, que Dieu viendra et dira à Moïse, « Moïse, écoute, je vois la souffrance de mon peuple et je veux le délivrer. » Ah bon ? C'est maintenant ? Mais oui, l'idée que tu avais était bonne, mais ce n'était pas le moment. C'est maintenant le moment. Il était 40 ans avant. Bon, vous savez, des fois, on a des bonnes idées, on veut faire quelque chose pour Dieu, mais ce n'est pas le moment. C'est pour ça qu'il est important de le consulter, parce que, et vous savez, dans la vie, il y a constamment des choses, on dit le timing est important. Le timing est important pour un enfant qui veut demander une faveur de son père. Il va attendre jusqu'à après le repas pour le demander, quand il se sent bien. Pour l'épouse, elle va trouver un moment, le bon moment pour parler à son mari. quand on va rencontrer quelqu'un à la mairie, si on arrive et puis on voit qu'il est déjà il est fâché avec quelqu'un, bon, c'est pas le moment de lui demander une faveur, hein, on attend, on revient un autre jour. Le timing est tellement important dans la vie, mais le timing est important dans l'œuvre de Dieu aussi. Et Dieu a un plan, et il y a un moment, et il n'est jamais en retard. Donc le problème de Moïse, c'est qu'il voulait délivrer le peuple, mais 40 ans trop tôt. Ben, ce n'était pas le moment, Dieu n'était pas avec lui. Il a essayé de faire quelque chose pour Dieu. Et des fois, on veut forcer les choses, on veut insister, on veut « Dieu, je veux ça maintenant ». On fait surtout ça avec la patience. Dis « Dieu, je veux de la patience et je la veux aujourd'hui ». Mais il y a combien d'autres choses? Et Dieu dit, écoute, compte sur moi, laisse-moi faire. En temps voulu. Seigneur, tu sais, tu as vu quel âge j'ai, puis j'ai pas encore trouvé même pas un jeune homme qui s'intéresse à moi. Comment je vais faire? Tu as vu mon âge? Il dit, laisse-moi faire. Compte sur moi. Toi, suis-moi. Et puis moi, je m'occuperai de toi. Et combien d'autres choses? Et puis bien sûr, les pasteurs, hein, ils tombent dedans aussi, hein, dans le ministère. Hein, on veut faire quelque chose et on veut que ça arrive vite. Et Seigneur, je veux ça tout de suite. Et puis, c'est le même problème. Hein, ce n'était pas que Moïse. Hein, il y en a des Moïse, il y en a plein, la vie. Parce que Dieu n'avait pas commencé 40 ans plus tôt, parce que, le peuple n'était pas prêt, la preuve, Moïse a essayé et puis ils n'ont rien compris. Eux, dans leur tête, ce n'était pas encore une question de délivrance et de partir, c'est une question de rendre la vie d'esclave un peu plus facile, c'est tout. Ce n'était pas une question de partir de l'Égypte, ils n'étaient pas prêts. Deuxièmement, Dieu avait promis à Abraham, il a dit « je les ramènerai dans ce pays ». Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 15 et verset 16, eh bien, il nous dit qu'en Canaan, ils n'étaient pas au comble de l'iniquité. Ce n'était pas le moment encore de les juger. Ils n'étaient pas arrivés à ce point-là, donc ce n'était pas le moment de les emmener. Et puis, bien sûr, le serviteur Moïse, la preuve, il n'était pas mûr encore. Vous savez, il y a tout un travail. Pour Dieu, ce n'est pas une question. Mais Dieu, tu peux tout faire. Oui, oui, mais ce que je veux, c'est que toi, tu sois là où je veux. Je veux que les choses. Ce n'est pas juste une question d'imposer sa volonté. Dieu n'est pas un Dieu là. Dieu aime que les gens viennent et ils le recherchent. Et il préfère travailler dans le cœur, prendre du temps et attendre que le cœur soit prêt pour qu'ils viennent à Dieu. C'est comme ça qu'il aime. Vous avez déjà vu, vous savez, on aime bien les petits-enfants, on aime bien les prendre dans les bras et puis les serrer et puis leur faire des câlins. Mais vous avez déjà vu les enfants, et vous l'attrapez comme ça, et puis lui il se débarque. Ça ne l'intéresse pas. Mais si on prend le temps de s'occuper de lui, de l'intéresser, de lui montrer des choses, tout ça, on peut le gagner. Après, c'est beaucoup plus agréable de le serrer, de serrer un enfant qui nous sert aussi, qu'un enfant qui, quand on le prend, il se donne des coups de pied et tout ça. C'est autre chose. Mais Dieu, c'est pareil. Il n'aime pas prendre un pécheur qui donne des coups de pied et dit « Moi, non, j'ai envie de m'amuser encore, laisse-moi. » Mais il dit « Attends, on va laisser les choses mûrir. Il y a des choses qui vont arriver dans sa vie, des questions qui vont lui arriver à l'esprit, tout ça. » Et puis tout ça ensemble, ça va l'arriver, l'amener. Et puis il va dire « Dieu, tu sais, est-ce que tu pourrais t'intéresser à moi ?» Je dis, oh, bah, je suis là, j'attends depuis longtemps. Hein. Et là, il aime bien prendre des pêcheurs, qui ne sait pas seulement que lui les entoure de ses bras, mais c'est que eux l'entourent de ses bras, de leurs bras. Et donc, c'est ça le Dieu de la Bible. Hein? Ce n'est pas un Dieu méchant qui dit, Dieu va te voir, tu vois, il va t'envoyer à l'enfer. Ça, c'est mal représenté de Dieu. C'est dire des mensonges. Et c'est donner une mauvaise éducation à nos enfants, si c'est comme ça qu'on parle de Dieu. C'est un Dieu qui nous aime, qui nous désire et qui nous attend. Et Moïse aussi, vous souvenez, quand il parlait dans le buisson ardent, et Dieu disait à Moïse, il dit, Moïse, écoute, je veux que tu descendes en Égypte et tu pars à Pharaon. Oh, yo, moi je ne sais pas parler. Il a dit, j'ai pas la parole facile. Ce qui était certainement vrai, puisque Dieu l'a pas dit, bon, oui, je comprends, et il n'a pas dit, c'est pas vrai. Il a dit oui, mais vous savez comment Dieu a répondu quand il a dit à Dieu, mais moi, j'ai pas la parole facile, hein, tu sais, c'est pas, je parle pas facilement comme M. Barnes, là, qui il a l'air à l'aise quand il parle devant tout le monde. Et non, non, c'est pas, et vous savez ce qu'il a dit? Il dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et tu dis, tu ne sais pas parler, c'est pas grave. C'est moi qui mettrai les paroles dans ta bouche. Vous savez, Moïse, il a essayé, il a tout fait. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, il l'a fait. Et puis en plus, ça je vous ai parlé de son éducation qui n'était pas une éducation de prophète. Je vous ai parlé de ses défauts. C'était un homme qui était, bon, parce qu'il avait grandi dans le palais, enfin, il était sûr de lui, il avait beaucoup de choses, il avait du mal à comprendre certaines réalités. Mais il y avait son mariage aussi. Parce que Moïse était célibataire quand il a fui l'Égypte et il est parti à Madian là-bas. Et puis là-bas, il a trouvé des sœurs qui étaient bergères, hein, parce qu'elles n'avaient pas de frères, elles étaient bergères. Il les a défendues et il a servi l'eau du puits, il a puisé l'eau du puits, tout ça. Puis ses hommes, ses filles étaient, on en parlait à papa quand ils sont rentrés. Il dit, il y a un homme, il nous a été gentil avec nous. C'est la première fois qu'on rencontre un homme qui est gentil avec nous. Ben, il a dit, mais vous l'avez laissé là-bas, mais dites-lui de venir. Puis finalement, les choses se sont arrangées. Puis il a dit, écoute, je te donne une de mes filles, Séphora. Et là, il a marié Séphora. Mais Séphora, c'était pas une croyante, hein. C'était pas une croyante. Vous savez, il arrive parfois dans notre vie, je prends le cas d'un célibataire, on est désabusé par les chrétiens, on dit, ouais, les chrétiens, c'est des hypocrites. J'ai lu aujourd'hui, cette semaine, j'ai lu une caricature. Il dit, les gens disent que l'Église est pleine d'hypocrites. L'autre, il dit, c'est pas vrai, il y a de la place encore pour toi. Mais on peut aller parfois désabuser. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on claque la porte de l'Église et puis on part comme ça. Mais vous savez, là où vous partez, c'est là que vous trouverez votre partenaire. Et quand vous trouvez ce partenaire, il faudra vivre avec le reste de votre vie. Moïse, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il parte. Mais il est parti. Et puis alors là où il est parti, eh ben, c'est là qu'il a trouvé une épouse. Parce que c'est tout ce qu'il y avait, c'était les épouses non-croyantes. Et au premier stade, elle était gentille avec lui. Mais vous savez, certainement qu'elle s'est opposée à ce qu'il pratique sa religion. Parce que on voit plus tard, dans le chapitre 4, quand Moïse doit retourner en Égypte, il part avec sa femme et puis ses deux garçons. Et puis tout d'un coup, Moïse est attaqué par un ange parce que Moïse était juif. Et c'était l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est que tous les mâles juifs devaient être circoncis. Mais apparemment, cette épouse s'était opposée. Elle l'avait empêché de pratiquer sa religion. Et alors, tout d'un coup, Séphora s'est rendu compte que l'ange allait tuer Moïse parce qu'il n'avait pas respecté l'alliance d'Abraham. Alors très vite, elle a circoncis son fils et puis elle a sauvé la vie de son mari. Mais apparemment, elle a dû rentrer à la maison aussi. Elle a dû faire demi-tour, rentrer à la maison parce qu'on voit plus tard... Exode 18, c'est que le père Jéthro, eh bien, ramène Séphora et les deux fils au pied du mont Sinaï pour dire, écoute, voilà ton mari, voilà ton épouse, hein, vous devriez être ensemble. Donc, Moïse s'est marié dans de mauvaises conditions, il a trouvé une épouse qui était opposée. Ça ne convient pas, elle ne veut pas le suivre, elle veut, moi j'ai rien à faire avec toi. puis elle était prête à le quitter, et tout cela. Vous dites, mais tout ça, ça ne va pas. Hein. Pour un prophète, ça ne convient pas. Il y avait rien. C'est un meurtrier. Deuxièmement, il avait une attitude, il se croyait maître de tout. Il avait appris ça dans le palais de Pharaon. Et puis, après, il se retrouve avec une épouse qui lui met les bâtons dans les roues. Et puis, en plus, il est un Madian. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu là-bas? Lui, c'était celui qui devait délivrer le peuple, mais eux, ils sont en Égypte. Et lui, il est là-bas. Il n'est même pas bien situé. Il n'est pas à l'endroit pour servir Dieu. Il est ailleurs. Vous savez, il n'y avait rien pour qu'il soit prophète. Mais vous savez, Dieu n'a pas renoncé. Et Dieu dit, ce qu'il faut, c'est que tu sois prêt à te soumettre à moi. Après, je peux faire des grandes choses. Vous savez, et donc là, il y a 40 ans en Égypte, après 40 ans en Madian, et puis après, il y a l'expérience devant le buisson ardent, et c'est là où, quelque part, il y a quelque chose qui se passe. C'est là où sa vie prend un tournant. Oh, il avait exercé de la foi avant. Vous lisez Hébreux 11, il a déjà exercé de la foi. C'est pas qu'il n'était pas croyant. Mais vous savez, on peut être croyant, on peut avoir la foi en Dieu, mais si on n'est pas soumis à sa volonté, si on ne fait pas les choses comme veut, c'est comme s'il n'y avait rien. On est inutile. Et Dieu ne peut rien faire de notre vie. On peut avoir de bonnes intentions, on peut dire, ouais, je voudrais faire, et combien sont les gens qui ont dit, ouais, moi je veux servir Dieu, je veux faire ceci, tout ça, et puis moi je crois à Dieu, et puis très vite, ils disparaissent de la scène. Mais là, Moïse a eu trois périodes de 40 ans, et ce n'est qu'à la dernière période, et bien que les choses se mettent en ordre pour lui, et qu'il commence. Et vous lisez l'histoire de Moïse à partir de ce moment-là, et c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, il consulte Dieu. C'est ça la seule différence. C'est le même Moïse. Mais la différence, c'est qu'à partir de là, il ne se consulte pas lui-même, il consulte Dieu. Et vous savez, dans notre vie chrétienne, si nous sommes, peut-être que nous sommes croyants, nous avons reçu Jésus-Christ et Dieu m'a affranchi du péché, mais je me consulte moi-même, je fais ce que j'ai envie, moi, non, j'aime pas ça, ça j'aime, ça me plaît pas, ça, je voudrais faire ça, celui-là il n'est pas beau, et à toutes ces idées-là, mais avec ça, Dieu dit, écoute, débrouille-toi. Hein. Après on dit, mais Dieu, où es-tu? Tu m'as laissé, je te vois pas, je prie, j'ai l'impression que tu n'entends pas. Il dit, ouais, mais c'est toi qui me parles pas. C'est toi qui me consulte pas. Et alors, vous savez, il ne suffit pas d'avoir la foi, mais aussi, il faut croire que cette foi doit être en action, et en action conduite par Dieu. Moïse, et comme on l'a lu dans Actes chapitre 7, Moïse était cet homme que les enfants d'Israël avaient rejeté. Mais maintenant qu'il a changé d'attitude, maintenant qu'il est prêt à consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit, tout d'un coup, il devient leur libérateur. Il avait voulu être leur libérateur, mais il faisait ce qu'il voulait, à sa manière. Maintenant, il est disposé, mais il est prêt à obéir à Dieu. Et là, tout d'un coup, le peuple le reçoit. Le peuple qu'il avait rejeté une génération plus tôt, eh bien maintenant, ils sont prêts à le suivre. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Mais c'est que quand on se donne à Dieu, et après lui, il agit sur les autres choses. Et c'est dans cette dernière série de 40 ans que Moïse devient vraiment serviteur de Dieu, au sens, au vrai sens du terme. Et dans Psaume 105, verset 26, il dit « Moïse, serviteur de Dieu. » C'était pas seulement un titre, c'était une fonction. C'était ce qu'il était. Ce berger qui se met pieds nus devant la parole, pas devant le buisson ardent, mais devant la parole de Dieu qui sort de ce buisson, eh bien, c'est lui qui deviendra le libérateur d'Israël. Et tout d'un coup, il a une autre manière de vivre. Le résultat, c'est qu'il nous dit dans Nombre chapitre 12, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ah, bah, c'était pas comme ça qu'on l'avait vu jeune. Jeune, patient. Oh, avec cet Égyptien-là, il n'a pas été patient longtemps. Hein. Il lui a fait sa fête en peu de temps. C'est vrai qu'il va devenir très patient. Pour diriger ce peuple pendant 40 ans, il fallait le devenir. Bon, ce n'était pas parfait, parce qu'une fois, il s'est fâché devant le rocher à Mériba, là, et ça l'a privé d'entrer dans Canaan. Mais quand même, il a fait de gros progrès. Quand on est serviteur de Dieu, on ne devient pas parfait. Mais si on laisse agir Dieu, il y a une transformation qui se fait. Pour être bien plus utile. Moïse, qui était l'homme capable de faire un meurtre parce que les choses n'allaient pas dans son sens, et bien tout d'un coup devient celui qui plaide pour eux devant Dieu, dans leur faiblesse. Et c'est lui qui se tient dans la brèche entre le peuple qui a adoré le veau d'or et Dieu qui est en colère. C'est lui qui se tient dans la brèche pour eux. C'est un homme transformé, mais c'est à ce moment-là qu'il devient utile. Ce Moïse qui avait été tiré de l'eau, comme l'indique son nom, ben c'est lui qui annoncera la venue de Christ. Il leur dira, il y a un prophète comme moi qui viendra. C'est Moïse qui parlera avec Dieu face à face sur le mont Sinaï, qui recevra la loi, ce que Abraham n'a jamais reçu. Et il donnera cette loi au peuple. C'est Moïse qui verra le modèle du tabernacle dans le ciel et qui reproduira et qui le mettra au milieu du camp sur terre. Et ce tabernacle qui va représenter le désir de Dieu de se trouver en communion avec son peuple. Ce désir de Dieu de vouloir, grâce au sacrifice, écarter le problème du péché et puis après de pouvoir venir à Dieu. Des valeurs, ce sont les points essentiels de la Bible. Et Dieu va se servir de cet homme qui était si orgueilleux pour en faire un homme qui va révéler les meilleures choses que Dieu a pour l'être humain, pour l'humanité. Mais la différence, ce n'était pas la foi. C'était une fois la foi, c'est de chercher la volonté de Dieu et de vouloir obéir à Dieu. Et là, comme je relis ce verset, verset 37, ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Et vous savez, et c'est le message qui est encore là pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est venu. Et il a dit, comme moi je vous ai délivré de l'esclavage de l'Égypte, lui viendra pour vous affranchira de l'esclavage du péché, comme il nous a été rappelé tout à l'heure. Et je lis ce passage qu'on a lu jeudi soir de Matthieu chapitre 12. Il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Et donc à tous les peuples. Et le salut, le message du salut sera pour tous, pour tous les peuples. La question maintenant ce matin, c'est où est-ce que j'ai la foi déjà pour être sauvé? Est-ce que je crois dans mon cœur que Christ est mort sur la croix pour mes péchés? Est-ce que j'ai pris conscience de mon péché, comme disait le frère Francis tout à l'heure? Est-ce que je suis conscient de mon péché? Je suis conscient de mon état devant Dieu? Et puis, je viens à lui pour qu'il me délivre. Deuxièmement, je peux dire, mais j'ai la foi, je crois en Dieu, mais j'aimerais faire des bonnes choses pour Dieu. Mais est-ce que tu cherches sa volonté? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu lis sa parole pour savoir comment le servir? Non, mais je l'aime beaucoup. Et il dit, oui, mais avec ça, tu ne feras rien, hein, tu seras inutile. Tu es peut-être croyant, mais tu es inutile. Et après, il y a celui qui dit, moi, je veux me mettre à la disposition de Dieu. Je veux être utile dans le plan de Dieu. Qui se sert de moi, je ne sais pas comment, je ne cherche pas à être un prophète comme Moïse. Tout ce que je veux, c'est d'être une cuillère dans la main d'un bon cuisinier. C'est à chacun de nous de réfléchir. Et nous allons là prendre quelques minutes pour baisser la tête et puis que chacun médite lui-même. Et les questions, les réflexions qui lui sont venues à l'esprit pendant cette étude, eh bien, c'est de dire à Dieu quelque chose. De dire, Dieu, je reconnais ceci, Dieu, je veux faire, Dieu, je m'engage à, vous voyez, c'est entre vous et Dieu.